Bonjour à tous. C'est la Pentecôte. Et ce matin, j'ai choisi un message sur la Pentecôte, l'effusion de l'Esprit de Dieu sur cette terre. Et voilà, c'est vraiment une joie parce que nous vivons en ce moment une période de confusion. Tout à l'heure, comme disait à prier Jean, nous vivons vraiment beaucoup de tumulte dans notre monde. Mais c'est tellement rassurant de savoir que l'Esprit de Dieu est en nous et qu'il nous, il veille sur nous. Et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. Et ça nous apporte vraiment aussi la joie. Alors, l'Esprit de Dieu, alors, on pourrait penser que l'Esprit de Dieu est venu sur cette terre seulement à partir de Pentecôte. Ah ben non, parce que Dieu a toujours existé. Dieu est en trois personnes, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et depuis toujours, l'Esprit de Dieu était présent. Et même dans l'histoire de l'humanité, à l'époque de l'Ancien Testament, Dieu s'est manifesté à travers son Esprit. Et nous pouvons voir qu'il a inspiré plein de personnes comme des prophètes, comme des rois. Alors on peut voir comme ça là, le prochain. Voilà, les hommes ont été inspirés par l'Esprit Saint, comme des prophètes, des rois, et puis certains rois, et puis des juges, lorsqu'ils ont été appelés, et puis même le responsable, qui avait justement pour la tâche de la fabrication du tabernacle, Betsaleel, qui était justement aussi inspiré par l'Esprit de Dieu. Donc Dieu a inspiré déjà à l'époque de l'Ancien Testament, ponctuellement, mais sûrement, parmi des hommes de Dieu, et pour justement réaliser son plan. Et d'ailleurs, lorsque nous regardons l'histoire de Moïse, on voit aussi la volonté première de vouloir inspirer par son esprit à tous. Par exemple, un jour, vous savez, par les peuples, Moïse était le plus grand homme de l'Ancien Testament, et même à l'époque, c'était le chef qui était en lien, en communication avec Dieu. Et à ce moment-là, il se passe quelque chose pendant justement pendant que Moïse était le chef de son peuple. Il se passe quelque chose, c'est que deux hommes qui s'appelaient Eldad et Medad ont été inspirés. Ils ont reçu l'Esprit de Dieu et ils ont commencé à prophétiser. Vous vous rendez compte? Des gens comme vous et moi, des simples lambda, qui commençaient à prêcher. Alors, le petit garçon qui a observé cette scène va rapporter ça à Moïse et aussi à Josué en disant que voilà, Seigneur, j'ai vu Eldad et Medad prêcher, ou plutôt prophétiser de la part de Dieu. Quand Josué entend, Josué c'était à l'époque le stagiaire de Moïse, on pourrait penser Guillaume, n'est-ce pas? Quand on dit stagiaire, on pense tout de suite à Guillaume. Donc imaginez le stagiaire qui a entendu cette nouvelle, qui servait Moïse, et il disait, mais Seigneur, empêche-les. Mais qu'est-ce qu'il avait dans la tête de Josué? Je pense que Josué, dans sa tête, c'était, voilà, mais qu'est-ce qui se passe? Seul Moïse pouvait faire face avec Dieu, et c'est lui qui nous a apporté sa parole, qui nous a aussi apporté sa loi, et tout à coup, deux hommes lambda, même pas moi, deux hommes lambda, qui commencent à prophétiser, et là il dit, empêchez-les. Et là, Moïse dit une phrase incroyable, il dit, es-tu jaloux pour moi? Et il dit, puisse tout le peuple de l'Éternel être composé de prophètes. Et veille l'Éternel mettre son esprit sur eux. Là, on voit vraiment la volonté de Moïse qui espérait que tout le peuple, le monde entier, reçoive l'Esprit de Dieu pour pouvoir prophétiser, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu. Et d'ailleurs, dans l'Ancien Testament, il n'y a pas que Moïse ou les prophètes, enfin si, les prophètes, mais aussi donc des prophètes. Parmi les prophètes, Joël disait aussi, voilà, dans chapitre 2, 28, il disait, « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront, vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. On voit bien vraiment qu'il y avait une prophétie comme quoi il y aurait, l'Esprit de Dieu allait être accordé à tous. À l'époque de l'Ancien Testament, ça a été accordé sporadiquement, momentanément, sur certaines personnes. Mais à partir de Pentecôte, la porte est grande ouverte, ne se ferme pas. Et Dieu accorde son esprit à qui il veut. Voilà donc, dans ce contexte, arrive le Nouveau Testament, donc Jésus. Et puis, après avoir passé 33 ans sur cette terre, après avoir exercé pendant 3 ans son ministère, il est crucifié et ressuscité, surtout ressuscité, comme il avait prédit. Ensuite, il passe 40 jours à enseigner à ses disciples sur le royaume de Dieu. Il enseigne pendant 40 jours. Et il s'est montré devant 500 hommes. Et ensuite, il opère en eux une profonde transformation. Tout de suite après la mort de Christ, normalement, les disciples avaient peur. Ils étaient dispersés, ils étaient déçus par la mort de Jésus. Mais après avoir vu Jésus ressuscité, ils ont reçu ce courage. Ils sont devenus courageux, intrépides. Et aussi, il prenait même de grands risques pour annoncer la bonne nouvelle au monde entier. Et puis, au 40e jour, Jésus monte au ciel, et la dernière parole qu'il dit, c'est « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et dans l'extrémité de la terre. » Face à cette parole, ou plutôt ce testament du Seigneur, les disciples, il s'est montré à plusieurs personnes, comme je vous avais dit, devant 500 personnes, mais seulement 120 se sont rassemblés dans la chambre haute de chez Jean-Marc pour prier. Et ils prièrent sans cesse, tous les jours, pendant 10 jours. Et donc, ça fait 40 plus 10, ça fait 50. Et c'est pour ça que c'est Pentecôte, Penta, qui veut dire 50. Donc, 52e jour, et c'est pour ça qu'après Pâques, on compte toujours la 7e semaine pour fêter la Pentecôte. Alors, il avait bien prédit, recevait l'Esprit de Dieu. Maintenant, je vais lire dans Actes chapitre 2, versets 1 à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les uns des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Voilà c'est ce qui s'est passé après 50e jour de la résurrection de Jésus. L'Esprit de Dieu a été accordé aux 120 disciples qui étaient réunis pour prier. Et voilà, donc on voit qu'il y a eu un grand bruit venant du ciel comme un vent violent, et puis des langues semblables à des langues de feu se manifestent dans ce verset. Et là, ils ont commencé à parler, à prier en d'autres langues que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. C'est à ce moment-là, à partir de ce moment de manifestation de l'Esprit de Dieu, qui a eu justement la naissance de l'Église, de chrétienne. C'est parce que voilà, l'Esprit, à partir de ce moment-là, inspirait les chrétiens, inspirait les disciples. Et tous ceux qui croyaient, ben, ils recevaient aussi l'Esprit de Dieu. Et donc cette manifestation de Dieu invisible était présente. Et c'est comme ça que l'histoire de l'Église commence. Et aussi l'histoire de la transformation des gens et aussi des disciples de Christ. Je reviens encore à cet événement où les gens, ces gens-là, ces disciples, parlent en langues qui sont compréhensibles. C'est comme si aujourd'hui, ce matin, nous sommes plusieurs nationalités différentes. On a des Colombiens, on a une Italienne, et puis voilà, Taïwanais, Coréens, Alsaciens. Voilà. Et puis, nous avons beaucoup de nationalités différentes, et comme si, voilà, quelqu'un prêche, les disciples prient, prêchent, et puis eux, ils entendent par leur langue maternelle. Incroyable, alléluia. J'ai imaginé un petit peu cette image. Vous savez, imaginez, j'ai donné la traduction de ma prédication au couple colombien. Et puis, c'est sûr que je ne prêche pas forcément ce que j'ai écrit. Et puis, donc, ils ne vont pas forcément tout comprendre, tout ce que je leur dis. Mais imaginez, à l'époque de Jésus, il disait quelque chose et puis chacun comprenait en sa langue maternelle. J'ai vu beaucoup de Coréens qui se sont installés en France. Et puis, quand ils sont nés en France, ils ont du mal à maîtriser totalement le coréen. C'est normal, je pense. Et c'est pour ça que les enfants nés en France, quand on faisait un culte en coréen, ils avaient besoin d'écouter par la traduction en français. Donc imaginez aussi, c'était vraiment une grande bénédiction de pouvoir entendre par sa propre langue maternelle. Et ce qui est encore génial, c'est que il dit dans Actes chapitre 2, verset 11, « Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues des merveilles de Dieu ?» Non seulement ils étaient étonnés par ce miracle où ils entendaient par leur propre langue maternelle, mais aussi des merveilles. C'est surtout ça. Ils étaient étonnés par le contenu du message, le contenu, les merveilles du Seigneur et la grâce que les disciples prêchaient, et ça les a touchés, ça les a touchés. Alors, je reviens encore vers l'histoire de Pierre. Pierre était présent parmi ces 120. Il a vu ce miracle se produire avec d'autres frères et sœurs en Christ, et maintenant, lui qui était un poltron, lui qui se cachait derrière... qui se cachait même vis-à-vis d'une petite servante, parce que voilà, on l'accusait d'être disciple de Dieu. Et là maintenant, il prend le courage, à partir du moment où il a reçu le Saint-Esprit, il prend le courage, il va vers des gens, il commence à prêcher avec courage, avec courage. Et surtout, lorsqu'il a été rempli de Saint-Esprit, qu'est-ce qu'il reçoit ? Une meilleure compréhension de la parole de Dieu. En voyant tous ses disciples prêcher, prophétiser en langue, il se rappelle tout de suite une parole qui a été prêchée à l'époque de l'Ancien Testament. C'est la parole que je vous avais lue tout à l'heure, Joël, qui disait « Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes et vos jeunes gens des visions. » Même sur les serviteurs et sur les servantes, dans ces jours-là, je répandrai mon esprit. Cette parole de l'Ancien Testament lui a rappelé. Et il commence maintenant à prêcher sur ce contenu en disant que, voilà, c'est aujourd'hui, c'est ce jour-là que Joël avait prêché, pour ce jour-là qu'il avait prêché. Et voilà, maintenant, ce que vous voyez, c'est la conséquence de cette prophétie qui se réalise maintenant. Et non seulement il prêche avec la parole de Joël, mais aussi il apporte la parole de psaume 16. En fait, le psaume 16 a été écrit par le roi David. Et le roi David était émerveillé, alors qu'il n'a même pas vu le Seigneur Jésus, mais lui, il était émerveillé le fait de savoir que le Seigneur allait venir, le Seigneur de sa postérité. Et il le loue, et il dit que bah, je voyais constamment le Seigneur devant moi, c'est ce que David disait, parce qu'il est à ma droite, enfin, et afin que je ne sois point ébranlé. Aussi, mon cœur est dans la joie, et ma langue dans l'allégresse. Rien que de penser que Jésus allait venir, le Seigneur allait venir et qu'il allait se manifester, ça le rendait joyeux. Et même ma chair reposera avec espérance. Voilà cette espérance qu'il a. Il n'avait pas cette espérance parce qu'il croyait Dieu le Père, mais il avait surtout cette espérance parce qu'il avait cette foi en Jésus, le Seigneur qui allait venir après lui. Car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton saint voie la corruption. Tu m'as fait connaître les sentiers de la vie. C'est toi qui es le chemin de la vérité, le chemin de la vie. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a dit? Je suis le chemin, la vérité, la vie. Et tu rempliras de joie, tu me rempliras de joie par ta présence. Voilà, donc Pierre apporte, psaume 16, il apporte la parole qui a été prononcée par le roi David, que tous les Juifs adoraient, admiraient. Et là, donc, ça donnait plus de poids dans sa parole. Il n'apportait pas une parole qu'il avait inventée, mais à partir de la parole qui existait déjà dans l'Ancien Testament, il apportait un éclaircissement de ce qui se passe. Et c'est ça qui a permis de convaincre 3000 personnes, 5000 personnes en une seule prédication. Ce serait vraiment super que je prêche une fois et que beaucoup de Vendepériens, 3000 personnes viennent ici. Ce serait vraiment un miracle. Bon, il n'y aurait pas de place ici. Hein. Il faudrait aller au parc des Charmois pour agrandir l'église. Tu peux passer le diapo suivant ? Voilà. Donc il y a eu donc cette compréhension de la parole de Dieu. La conséquence de l'esprit qui réside en nous a été vraiment la compréhension de la parole de Dieu. Pierre qui, voilà, il était un pécheur, il n'était pas un érudit comme Paul, mais voilà, il connaissait bien la parole de Dieu. Et puis, surtout en voyant les événements, il pouvait discerner. Je pense que le Seigneur, quand il nous inspire, il nous donne un certain discernement, un don pour éclairer la parole de Dieu et pour comprendre la profondeur de la parole de Dieu. Que vraiment chacun de nous puissions recevoir cet esprit de Dieu qui nous vivifie et surtout qui nous donne une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Et ensuite, bien sûr, cet esprit de Dieu qui demeure en nous, il ne nous quitte pas, il reste en nous. Il va nous accompagner durant toute l'éternité. Ce n'est pas seulement maintenant, mais cet esprit qui demeure en nous nous accompagne jusqu'à la fin, et même jusqu'à l'éternité. Ça, c'est vraiment une joie, une joie. Et donc, ainsi, cela permet d'avoir une nouvelle relation. Et cet esprit de Dieu, oui, nous transforme petit à petit. Peut-être qu'au départ, on avait une petite foi, mais de plus en plus, plus on croit en Dieu, plus on étudie, on entre dans la profondeur, dans une relation intime avec le Seigneur, ben, on est transformé de jour en jour. Comment ? Parce que l'Esprit de Dieu est en nous, parce qu'il demeure en nous, parce qu'il nous transforme de l'intérieur. Amen. Amen. Bon, ça, vous le savez, hein, tout ça, tout ce que je vous raconte. Mais c'est important aussi de le vivre, de réentendre ce message, et puis de laisser surtout plus de place au Saint-Esprit qui est déjà en nous à partir du moment où vous avez confessé Jésus-Christ comme votre Seigneur. Il est important aussi que qu'on reçoive cet esprit, mais aussi qu'on soit dans la plénitude du Saint-Esprit, dans la plénitude du Saint-Esprit. Et il nous transforme, mais aussi il nous appelle à être aussi des témoins de son amour. Non seulement, voilà, il nous transforme, enfin, nous recevons cet esprit de Dieu, mais notre comportement, notre manière d'agir, de penser change, et on aura aussi des fruits de l'Esprit de Dieu. On aura la joie, la paix, l'amour de Dieu qui va être visible à partir de notre comportement. Et puis, il y aura aussi cet esprit qui demeure en nous, permet aussi d'avoir une unité entre Dieu, mais aussi entre les croyants. L'Esprit de Dieu crée une unité parmi les croyants. Et ainsi, Dieu nous appelle à vivre aussi en harmonie. Nous pouvons former l'unité. Nous pouvons vraiment partager. À partir du moment où nous partageons une même foi, un même amour pour Dieu, nous devenons tous des frères et sœurs en Christ. Vous avez des sœurs, des frères? Peut-être vous êtes un enfant, ouais, tout seul. Mais en tout cas, si vous avez des frères et sœurs, on discute et on dispute aussi. On n'a pas forcément non plus une meilleure relation, mais après, on se réconcilie, etc. C'est encore mieux que ça, c'est la relation entre frères et sœurs, parce que nous avons tous reçu le même esprit et ça nous permet d'avoir une meilleure relation entre frères et sœurs. Et ça nous permet de pleurer ensemble. Ça nous permet de se réjouir ensemble. Cette semaine, Odette a perdu son frère. Toutes nos condoléances. Il y a eu des sœurs qui ont pu aussi l'accompagner. Il y a eu aussi un veillé. On a pu prier ensemble. Quand nous pleurons ensemble, quand il y a un membre qui souffre, nous pleurons ensemble. Hier, c'était le mariage de Solène. Cette semaine, il y avait deux événements assez contrastes. Beaucoup de souffrance, mais aussi beaucoup de joie, parce qu'il y a eu ce mariage de Solène Trompe et avec Joseph, qui nous a beaucoup réjouis. Et on s'est réjouis ensemble. On a ri ensemble. On a béni ce couple ensemble, parce que nous sommes tous frères et sœurs en Christ. C'est important de former cette unité entre les chrétiens. Et puis lorsque le Saint-Esprit vient en nous, le Seigneur nous permet aussi, je vous lis dans Romains 8, 26, « De même aussi l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. » Quand vous n'avez plus de force pour savoir comment prier à Dieu, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous prie, intercède pour nous. L'Esprit de Dieu qui nous connaît mieux que quiconque, il connaît nos soucis, nos préoccupations, nos manquements, nos péchés même, et il prie pour nous. Il prie pour nous, pour notre bien, pour notre protection. Et ça, c'est vraiment une nouvelle réjouissante. Que le Seigneur vraiment continue, cet Esprit de Dieu continue en tout cas à intercéder pour nous. Et cet Esprit de Dieu va aussi intercéder au moment du jugement. Vous savez qu'un jour, nous serons devant le tribunal de Dieu, tous, qu'on soit chrétien ou pas, nous serons tous devant le tribunal du Seigneur. Et à ce moment-là, Jésus viendra en tant que juge. Et puis, l'Esprit de Dieu qui demeure en nous va intercéder, va être notre avocat pour dire que, oui, tu sais, Jean croyait en toi et que maintenant, par sa foi en toi, ses péchés d'avant sont pardonnés. Il mérite d'être avec le Père. Cet avocat, cet Esprit de Dieu qui intercède pour nous, par des soupirs inexprimables, nous accompagnera aussi jusqu'à la fin. Même après aussi, même après ce jugement, il nous accompagnera. Qui est vraiment une nouvelle réjouissante. Oui, être rempli de l'Esprit de Dieu transforme notre vie de manière profonde, significative. Ainsi, comme Pierre, qui avait vraiment reçu ce discernement de la parole de Dieu, nous pouvons comprendre mieux la parole de Dieu. Nous pouvons vivre dans la joie de sa présence. Lorsque nous sommes remplis de l'Esprit de Dieu, mais dans la plénitude, nous pouvons marcher dans le sentier de la vie éternelle. Et puis, en invoquant le nom du Seigneur, nous trouverons aussi le salut et la force pour affronter les épreuves. L'Esprit nous unit aussi en une communauté de croyants et témoigne de notre foi devant Dieu, assurant notre place dans le royaume des cieux, que vraiment chacun de nous aspire à être rempli de l'Esprit de Dieu et aussi pour pouvoir aussi porter le fruit de l'Esprit de Dieu. Je vous avais dit au début de cette prédication que voilà, Dieu s'est manifesté ponctuellement, même à l'époque de l'Ancien Testament. Et j'aimerais vous lire encore un verset dans Zacharie, un petit prophète, Zacharie chapitre 4, verset 6, où il est dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aimerais vous inviter à lire ensemble à partir de « Ce n'est ni par la puissance ». On y va ? « Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit. » Voilà, dit l'Éternel des armées. En fait, Zacharie, le prophète, dans les versets précédents, il avait reçu une vision. Une vision qui montre un chandelier d'or avec un bol au sommet, 7 lampes et 2 oliviers de chaque côté. Et il demande, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Et là, Dieu donne une interprétation de cette vision concernant Zorobabel qui est aussi à l'époque le gouverneur de Juda et qui était chargé de reconstruire le temple. Donc c'était à l'époque où voilà, on reconstruisait le temple et Zorobabel avait une lourde charge parce qu'il y avait beaucoup d'ennemis qui étaient contre cette construction. Et là, Dieu donne en fait le courage. Dieu donne une parole d'encouragement pour qu'il continue à faire ce qu'il doit faire. Et là, il dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force. Ni par la puissance, ni par la force. J'ai l'impression qu'ici, la puissance, c'est, il parle de la puissance des hommes. Vous savez, il y a la puissance politique, on peut transformer le monde, enfin, on essaie de transformer le monde par la puissance politique en ce moment même, dans le monde actuel, par la puissance militaire, par la puissance financière, avec de l'argent aussi. Hein, le monde actuel essaie en tout cas de transformer le monde. En tout cas, je pense que c'est cette puissance-là que Dieu nous parle lorsqu'il dit ce n'est ni par la puissance, et puis ni par la force. La force. Cela concerne plutôt la force individuelle, telle que notre force physique, notre intelligence, nos talents personnels, peut-être notre influence vis-à-vis des autres. Enfin, on peut comprendre de cette manière. Mais il dit, par mon esprit, ma volonté de reconstruire le temple, ça se fera non pas parce que vous avez des forces, parce que vous avez de l'argent, mais parce que c'est l'Esprit de Dieu qui vous guide. Cet Esprit de Dieu qui a créé le monde, cet Esprit de Dieu qui est notre consolateur, cet Esprit de Dieu qui nous guide, qui nous protège, qui est aussi une source de réconfort et d'instruction, cet Esprit de Dieu révèle les vérités profondes, donne une vie nouvelle aux croyants, il nous aide à devenir plus semblables à Christ. Cet Esprit de Dieu nous intercède aussi pour les uns des autres. est cet Esprit de Dieu qui nous permet de réaliser son plan. Cet Esprit de Dieu qui nous permet de croire en Dieu. Ce n'est pas par ma propre volonté que nous avons cru en Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez été évangélisé, que vous avez entendu, que vous avez décidé de croire. Non, c'est parce que Dieu, l'Esprit de Dieu, vous a permis d'avoir cette foi. Un jour, j'ai vu des gens assister des miracles. Devant eux, ils ont pu voir quelqu'un qui était malade depuis très très longtemps marcher devant eux, suite à une réunion de prière. Mais malgré le miracle, ils ne croient pas. Ils n'arrivent pas à croire Dieu. Ils disent que voilà, c'est un événement fortuit, c'est au hasard, ce n'est pas naturel, mais voilà, ça s'est produit comme ça. Et ils ont du mal à croire en Dieu. On a beau montrer Jésus ressuscité, il y a eu beaucoup de gens qui n'ont pas cru. Ce n'est pas par la connaissance, ce n'est pas parce que nous avons évangélisé avec certaine éloquence que les gens vont croire en Dieu. Non, il faut que Dieu touche le cœur de chacun. J'aimerais apporter un témoignage d'une personne que j'avais entendue il y a très longtemps. Il avait fait les études de théologie en Corée pendant 4 années. Il a étudié profondément la parole, mais il n'a pas cru en Dieu. Il n'a pas cru en Dieu. Pourtant, il allait à l'église aussi, toujours. Et c'est dans cette église-là qu'il a rencontré une fille avec qui ils ont décidé de se marier. Le problème, c'est que le gars qui ne croyait pas en Dieu, ses parents étaient profondément bouddhistes. Donc tous ses copains étaient des moines bouddhistes ou des responsables du temple bouddhiste. Les parents ne voulaient pas qu'il se marie avec une chrétienne. Et puis, du côté de la fille, c'était la fille de l'ancien de l'église. Et qui, voilà, donc toute sa famille, tous ses proches étaient vraiment chrétiens à fond. Et puis, le jour J arrive, la rencontre entre les parents. Et puis, les parents bouddhistes disent non, je ne veux pas que le mariage se fasse à l'église. Si ça se fait à l'église, il faut cacher la croix. Hein, il faut cacher la croix, il faut ne pas chanter, il faut ne pas prier. Ne rien faire en fait, mais vous pouvez faire la cérémonie de mariage quand même. Et donc les parents ont été d'accord, sauf que le pasteur, lui, il n'était pas d'accord. Et donc le jour J, il vient voir les parents et disant voilà, moi je ne peux pas accepter cette condition. Donc ils ont un peu fait des compromis et ils ont finalement quand même fait la prière, pour dire que les parents étaient farouchement contre. Et imaginez la scène du mariage. Moi, j'étais hier au mariage, mais imaginons, on était, je pense, peut-être 300, 400. Imaginez 300 personnes, 400 personnes, dont la moitié ont des... Comment s'appelle ça? Des chapelets, des moines. Donc, ils ont leur chapelet. Hein, et puis, il y a des moines bouddhistes qui étaient présents avec leurs habits. Et l'autre moitié, c'est avec leur Bible... convaincus pour la foi, etc. Et puis ils ont pu faire le mariage. Ce n'est pas parce que nous avons étudié la parole qu'on devient chrétien. Bizarrement, ce père qui était profondément bouddhiste devient chrétien avant de mourir. devient chrétien avant de mourir. Donc le fils... Il était choqué par la transformation de son père. Et il commence de plus en plus à s'intéresser à Dieu et il devient aussi chrétien. Et il devient tellement chrétien que, voilà, il était tellement ému par chaque verset, il était complètement ému, ce qu'il n'avait pas découvert avant. Donc, il faut vraiment l'Esprit de Dieu pour ouvrir nos yeux, comme Paul, où les écailles sont tombées. Pareil, pour les non-chrétiens, il faut que Dieu touche le cœur pour que voilà, Dieu se manifeste, pour que nous ayons la foi. Et à partir du moment où nous avons reçu cette foi, l'Esprit de Dieu commence à résider en nous. Et il veut prendre plein de place de nous. Est-ce que nous laissons à cette place pour lui donner accès à nous? Ou bien est-ce que vous l'enfermez dans une des chambres à double tour et c'est seulement le dimanche matin, vous ouvrez cette chambre en disant « Ah, ça va, Dieu ?» Ensuite, vous refermez. Est-ce que vous lui donnez pleine place dans votre vie quotidienne aussi? C'est la question que j'aimerais vous laisser. J'aimerais encore vous relire Zacharie 4, 6. Je vous demande de lire ensemble, à partir de ce n'est ni, comment on commence. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Je sais que vous allez oublier ma prédication. Je sais que dans une semaine, vous allez peut-être vous rappeler, ah, Dieu, Jean avait dit quelque chose, c'était quoi le thème déjà hein? Mais j'aimerais vous demander quand même de vous rappeler cette parole. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais par l'Esprit du Seigneur que Dieu peut agir. Dieu peut nous transformer, Dieu peut nous relever, Dieu peut nous accompagner pour accomplir sa volonté. Que le Seigneur nous bénisse. Amen.